Bonjour à tous, bienvenue dans ce tout premier épisode de Bien dans ses baskets. Aujourd'hui, nous avons eu le plaisir d'accueillir Antoine Froin, à la fois kinésithérapeute et également doctorant en sciences du sport. Antoine nous a parlé de son métier, partageant ses expériences en tant que soignant, que ce soit à travers ses interactions avec ses patients au cabinet ou dans son rôle de kiné du sport auprès de sportifs professionnels. Antoine nous a également livré ses expériences personnelles, éclairant le lien essentiel entre la santé physique et la santé mentale. Enfin, il nous a partagé son point de vue sur la question du bien-être. Salut Antoine!
Salut Antoine!
Salut Nina, Ivan!
Alors, on te remercie d'être venu sur le podcast Bien dans ses baskets. Et pour commencer, on va te poser une question qu'on posera à tous nos invités. Selon toi, qu'est-ce que cela signifie être bien dans ses baskets?
Déjà, Nina et Yohan, je vous remercie pour l'invitation. Ça me fait très plaisir de pouvoir répondre à vos questions aujourd'hui. Et puis, pour répondre à ta première question, qu'est-ce que ça veut dire être bien dans ses baskets? Pour moi, je pense que c'est un équilibre, en fait, entre toutes les choses auxquelles tu peux toucher dans ta vie, c'est-à-dire un équilibre entre le pro, le perso, entre les activités sportives par exemple, et puis les activités un peu plus intellectuelles, et puis un équilibre dans les relations que tu peux avoir à l'autre, c'est-à-dire les relations familiales, relations amicales, plutôt les relations personnelles, etc. Donc je pense que être bien dans ses baskets, c'est quelque chose qui est assez difficile à définir comme ça en quelques mots, mais je pense que c'est un équilibre en fait dans la vie, pour moi en tout cas.
Mais c'est très bien, c'est une très bonne réponse, merci. Et du coup, justement, tu parles de toutes les sphères qui peuvent composer un équilibre. Donc toi, est-ce que tu peux commencer à nous parler un petit peu de toi, te présenter, présenter la personne que tu es?
Oui. Alors moi je suis Antoine Frouin, donc je suis masseur kinésithérapeute diplômé depuis 2016. J'ai repris mes études en 2018 où j'ai fait un master entraînement et optimisation de la performance sportive à l'UFR STAPS à Nantes sous la direction d'Antoine Nordez et de Guillaume Lessant. Et puis j'ai enchaîné un an et demi après sur une thèse en sciences du sport, dans laquelle on développe un programme d'entraînement pour des personnes qui se font une blessure au genou qui est très connue, qui s'appelle la rupture du ligament croisé antérieur. Et donc on essaye de préparer au mieux ces personnes-là à l'opération. Et donc je fais ça au laboratoire en motricité, interaction et performance à Nantes, sous la direction encore une fois d'Antoine Nordez, de Guillaume Lessant et de Lilian Lacourpaille. Voilà un petit peu pour ce que je fais en termes de professionnel. Et puis après, sur le parcours de vie, un petit peu plus. Donc moi, je suis né en Allemagne, à Cologne exactement. Et puis au bout de 9 ans, mes parents ont décidé de déménager. Donc on a été pendant 2 ans et demi dans le sud de la France. Et on est revenu sur la région du Grand Ouest, à Cholet, quand j'avais 11 ans à peu près. Donc, voilà, après, toute la scolarité s'en est suivie à Cholet. Et puis Nantes pour les études. Et j'ai jamais quitté Nantes depuis que je suis arrivé ici pour la kiné. Voilà un petit peu mon parcours.
Ok, et est-ce que tu peux nous dire si tu fais aussi du sport à côté?
Ouais, alors je pratique énormément de sport. Donc en gros, moi je suis un passionné de trail et de trail plutôt long. Donc ça fait un peu plus de 6 ans maintenant que je cours et mon objectif, loin de la performance, c'est de terminer des courses qui sont de plus en plus longues. Donc on fait ça entre copains, hein, pas de club, pas de pression d'objectif de performance. C'est vraiment à la cool. Et donc on a passé l'année dernière, c'était l'objectif, passer les 100 km avant les 30 ans. Et donc ça a été réalisé l'année dernière avec un 106 km à Millau. Voilà.
Trop bien, trop intéressant. Justement, ça fait lien avec ce dont on va parler juste après. Justement, tu parles de courir, donc du mouvement. Et toi, avec ta casquette de kiné, est-ce que justement le fait de bouger, de faire du sport, c'est important pour être bien dans ses baskets, être bien dans sa tête? Je ne sais pas si tu as pu voir ça avec des patients. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, s'il te plaît?
Ouais, On est aujourd'hui dans des grands débats sur l'activité physique, sur les bienfaits que ça peut avoir auprès des personnes, des jeunes ou des moins jeunes, hein, notamment. Nous, en kinésithérapie, on voit ça assez régulièrement. Donc moi, je m'occupe essentiellement de personnes qui font de l'activité physique et sportive. J'ai très très peu de personnes qui sont sédentaires et qui font pas d'activité. Mais on peut voir que, par exemple, la blessure dont je m'occupe le plus, la rupture du ligament croisé, qui est une blessure en fait qui tient les gens éloignés de leur activité physique pendant très longtemps, elle peut avoir un impact important sur la sphère un peu mentale et psychologique. Il y a des études aujourd'hui qui s'occupent de regarder un peu ces détails-là. On sait qu'il y a à peu près une quarantaine de pourcents de personnes qui sont touchées par des symptômes dépressifs à la suite de la rupture du croisé. Les explications, elles sont multiples. C'est qu'en fait, une blessure aujourd'hui, peu importe le niveau de pratique, mais pour une personne qui fait du sport, ça l'éloigne en fait de son environnement habituel. C'est-à-dire que ça va couper des relations humaines, que ce soit avec les personnes avec qui on pratique le sport, mais aussi sur d'éventuelles sorties, sur une participation à la vie collective, etc. Et donc ça a un impact important, ouais, cette absence d'activité physique et sportive pour les gens.
Et du coup, tu nous as dit au début là, de ton propos que tu t'occupais plutôt donc déjà de sportifs confirmés ou en tout cas qui ont déjà l'habitude dans leur quotidien d'avoir inclus en fait la pratique sportive. Et déjà, est-ce que tu peux un petit peu justement pour par exemple prévenir les blessures, nous dire comment tu conseillerais à des personnes qui en fait n'ont pas du tout pris l'habitude ou en tout cas l'ont peut-être perdu de reprendre progressivement le sport justement pour la prévention de blessures.
Alors, pour moi, aujourd'hui, il y a plusieurs choses dans ta question. Déjà, il y a un petit point, c'est que moi, ma conception fait qu'aujourd'hui, la prévention, elle est très complexe. Donc, je préfère parler de diminution de facteurs de risque parce que la blessure, elle est multifactorielle. Et aujourd'hui, la prévenir, c'est, je pense, quelque chose de très compliqué à mettre en place. Si on continue un peu sur cette dimension-là, il faut savoir qu'aujourd'hui, il faut intégrer la blessure au parcours du sportif, c'est-à-dire qu'il faut apprendre aux gens à se dire que de toute façon, quand on pratique une activité physique, on va avoir une demande envers le corps qui peut être majorée, et donc l'apparition d'une blessure, c'est quelque chose qui est normal, qui peut être dans la normalité. Ça ne veut pas dire qu'il faut vivre avec, qu'il faut courir avec une blessure, etc. Loin de l'idée de cette idée-là, mais en fait c'est plutôt de dire aux gens si vous vous blessez à un moment donné, c'est parce qu'il y a des choses qui ont fait que vous vous êtes blessé et ça fait partie de l'activité physique. Ça c'est le premier point. Et puis après pour rebondir sur ta deuxième partie de question, moi ce que j'aime bien dire aux gens, alors ça va vous paraître un peu bizarre, mais en fait se mettre à l'activité physique et sportive, c'est pas quelque chose de simple quand on n'en a jamais fait. Donc ça déjà il faut l'avoir à l'esprit. C'est-à-dire que aller vers une activité physique quand on n'a absolument pas pratiqué d'activité physique dans sa vie ou quand on y a été contraint, par exemple à l'école, parce qu'il y a certaines personnes qui prennent ça comme une contrainte, c'est compliqué. Donc, c'est-à-dire qu'il faut mettre des choses en place qui peuvent rentrer dans les habitudes de vie pour pouvoir progressivement aller sur de l'activité physique régulière. Et ça peut commencer par des tout petits temps, des 10 minutes, 15 minutes, une fois dans la semaine, deux fois dans la semaine, à des moments où on sait qu'on va avoir un petit peu plus de temps pour faire de l'activité physique et sportive, à des moments où ça va pas avoir trop d'impact sur l'organisation d'une journée ou d'une semaine, parce qu'il y a aussi ça. Souvent, quand on demande aux gens de se mettre à l'activité physique et sportive, et ça arrive avec certains de mes patients qui, par exemple, courent une fois par semaine, et puis on leur dit, bah, ce serait peut-être bien d'associer un petit peu de renforcement à côté pour voilà, tout ce qui est blessure, rééducation, etc. Et en fait, le premier argument qui vient, c'est le manque de temps. Et en fait, souvent, on se rend compte que c'est pas vraiment le manque de temps, mais c'est plutôt la perception du temps et de l'organisation que ces personnes ont dans la semaine. Donc, en gros, on leur dit, ben voilà, il suffit de trouver 10 minutes dans votre semaine pour commencer, pour faire les exercices qu'on vous demande, par exemple. Et donc ça, après, pour le mettre en place, l'outil, c'est ce qu'on appelle des entretiens motivationnels. Donc en fait, il faut prendre en compte ce que le patient a à l'esprit et ce qu'il a envie de mettre en place. Donc c'est une construction. C'est pas quelque chose qu'on contraint et qui est vertical, c'est-à-dire je demande pas à mon patient de faire des exercices et s'il les fait pas, on va pas avancer. C'est plutôt, voilà, moi aujourd'hui, j'ai des outils pour vous permettre potentiellement d'aller mieux, de récupérer votre activité physique et sportive. Voilà ce que je vous propose de mettre en place. Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis après, on construit ensemble quelque chose qui est, on va dire, une moyenne de nos deux points de vue et qui peut permettre d'avancer, en fait. Voilà un petit peu comment je construis les choses avec mes patients aujourd'hui.
Ok, c'est vraiment hyper intéressant et je vais rebondir sur quelque chose que tu as dit juste avant. Tu as dit que souvent les blessures étaient associées plus tard à des symptômes dépressifs, peut-être des phénomènes d'incompréhension, etc. Et comment toi, en tant que kiné, donc là par exemple avec des patients avec une rupture du ligament croisé antérieur, comment tu manages ça en fait, l'état d'esprit, comment ils se sentent et comment tu manages ça dans ta rééducation?
Alors, ça dépend déjà des personnes avec lesquelles on communique, parce que même si je fais pas de différence entre ce que j'appelle un sportif du dimanche et un sportif de haut niveau dans mes rééducations, parce que l'objectif c'est de toujours faire du mieux qu'on peut pour nos patients, il y a quand même du point de vue, on va dire, de cette sphère que j'appelle biopsychosociale là, des choses à mettre en place qui sont différentes en fait en fonction des gens. Si je prends par exemple l'exemple des sportifs de haut niveau avec les rugbyman par exemple à Nantes, on a eu ces dernières années des grosses blessures sur ce qu'on appelle des cadres d'équipe, c'est-à-dire des leaders dans un vestiaire. Donc là, j'utilise des termes. Moi, je suis absolument pas spécialisé en psychologie, donc il faudra me pardonner les approximations, surtout Nina. Donc ce qu'on appelle des leaders. Dans un vestiaire. Alors, leader, ça ne veut pas dire que c'est celui qu'on suit absolument tout le temps, mais c'est que dans certaines situations, ce sont des éléments clés. Et on a donc des blessures qui sont comme, par exemple, des ruptures de tendons d'Achille qui tiennent les gens éloignés pendant un an des terrains, rupture du ligament croisé sur des arrières qui sont très importants dans l'équipe, et puis des butées d'épaule. Donc ça, c'est des limitations chirurgicales qu'on met à l'épaule pour plus qu'il y ait de luxation, qui tiennent aussi les gens éloignés des terrains pendant très longtemps. Et ça, en fait, sur des cadres d'équipe. Et donc, c'est ce qui se passe dans ces moments-là, c'est qu'il faut non seulement gérer, on va dire, un peu le stress de ces personnes-là à revenir au meilleur niveau et le plus vite possible, gérer, les ambitions du staff, qui est derrière, qui, lui, inconsciemment, hein, parce que leur but c'est que les gens aillent le mieux possible, mais inconsciemment mettre la pression pour que ces cadres reviennent vite, parce qu'on sait que sans eux ça va être plus compliqué de faire des résultats. Et puis donc il faut gérer un petit peu tout cet ensemble et essayer de mettre en place des outils, d'abord avec le sportif. Et ça, ce qu'on met en place, bah, la première chose, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est savoir où on va, donc c'est-à-dire fixer des objectifs précis dans la rééducation. Donc moi, j'utilise peu la temporalité parce que je trouve que c'est quelque chose d'approximatif et qui varie entre les gens, mais plutôt des exemples, par exemple, enfin des outils, par exemple, d'évaluation de force. On va se dire, quand on a atteint tel niveau de force sur le mollet, on va pouvoir reprendre la course à pied. Donc c'est un ensemble d'outils qu'on utilise. Et après, pour l'aspect psychologique, on a des questionnaires spécifiques en kinésithérapie qui nous permettent en fait d'aller sur des dimensions un peu de bien-être de la personne, de ressenti par rapport à la blessure, de est-ce que la personne elle est prête en fait à reprendre son activité sportive d'un point de vue psychologique. Donc ça c'est des questionnaires plutôt avec des items qu'on donne à nos patients et auxquels ils répondent et au fur et à mesure de la rééducation on voit soit une évolution dans ces choses-là, soit on n'en voit pas. Et ce qu'on fait, c'est qu'on fait souvent un parallèle avec les capacités physiques. C'est-à-dire que demain, si par exemple les capacités physiques de mon patient augmentent, mais que je vois que sa qualité de vie ou son ressenti vis-à-vis du retour à l'activité physique augmente pas, ben c'est potentiellement qu'il peut y avoir un souci. Donc on essaye de gérer un petit peu tout ça comme ça.
Ok, c'est super intéressant. Donc en fait, ce que tu nous dis, c'est que un problème physique, donc là, par exemple, la perte de force du quadriceps dans ton cas, va être lié à un problème plutôt psychologique, donc au niveau peut-être de l'appréhension de la qualité de vie. Et donc ce qui est intéressant, c'est que tu corrèles les deux. Et est-ce que tu penses que justement, il faut tout le temps les corréler, ou des fois, tu t'occupes peut-être un peu plus du côté psychologique, ou peut-être un côté un peu plus physique, ou voilà. Dis-nous ce que tu en penses.
Ouais, on a des évidences aujourd'hui dans le croisé qui montrent que les personnes qui ont une plus grande force du quadriceps, donc une plus grande force d'extension du genou avant une opération, elles ont une qualité de vie et un ressenti psychologique vis-à-vis de la blessure à 4 mois et 1 an qui sont plus importants que des gens qui partent avec des déficits importants dans ce process de chirurgie rééducation. Est-ce qu'il faut toujours les corréler? Ça, c'est une très très bonne question. D'une manière générale, je pense que ça dépend déjà de la voie d'abord qu'on a. Moi, j'ai une voie d'abord qui va être très biomécanique. Donc, on est centré sur la force, on est centré sur le volume musculaire, sur la récupération de capacité fonctionnelle de la personne. Et je me dis souvent, et bien sûr, je pense à tort, que si on augmente ces capacités-là, forcément, l'aspect psychologique, environnemental va suivre. Donc ça, c'est l'abord que j'avais au tout début. On essaye de changer un petit peu ça pour justement s'intéresser un peu plus à ce qui se passe d'un point de vue psychologique avec le patient, notamment avec ses questionnaires. Donc ça peut paraître tout simple à mettre en place, mais ça demande quand même un petit peu de temps de mise en place et puis après d'analyse. Et en fait, une fois qu'on a fait ça, on se rend compte que ben parfois, oui, quand on augmente les capacités physiques, on augmente aussi le bien-être et enfin, la conception psychologique de la blessure de la personne. Mais on se rend aussi compte qu'il y a des gens avec qui on va avoir énormément de progrès et avec qui cet aspect psychologique progresse pas du tout. Et enfin, il y a une dernière catégorie de personnes avec lesquelles on voit qu'il y a déjà quelque chose qui va pas forcément très bien d'un point de vue psychologique et environnemental. Et avec ces gens-là, on va pas progresser sur le physique. Tant que l'environnement psycho ou l'environnement personnel ou de travail qui peut créer des difficultés chez la personne sera pas pris en charge ou résolu, eh bien, on pourra pas progresser nous en rééducation. Et ça, on le voit. Alors encore une fois, c'est pas mon domaine de spécialité, mais on le voit. Je pense que c'est mis en évidence énormément chez les personnes avec des lombalgies chroniques, notamment. Des douleurs en bas du dos qui sont chroniques, on a des évidences sur le fait que ben ça peut être lié fortement à des problématiques d'environnement. Et dans ces cas-là, moi je considère que on dépasse un petit peu mon champ de compétences et j'essaye d'adresser en fait ces gens-là à des psychologues par exemple, parce que c'est le plus simple et c'est le métier que je pense être adapté à ces situations-là, pour que les gens puissent échanger sur leurs problèmes. Échanger sur ce qui va pas au travail, ce qui va pas à la maison, et donc progresser sur cet aspect-là pour que nous, on puisse ensuite progresser dans les domaines, on va dire, de capacité physique.
Donc en fait, tu penses que c'est complémentaire d'avoir une prise en charge psychologique d'un côté et de l'autre côté avoir quand même une prise en charge entre guillemets physique, que ce soit de la kiné, de l'APA, etc. Donc c'est vraiment l'ensemble des deux qui va faire que le patient finalement va se sentir mieux.
Je pense que aujourd'hui, il y a une vraie complémentarité. Ce qui est compliqué, je pense, en France, du moins la conception que j'en ai, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de psychologue, on associe tout de suite ça, et je pense chez les sportifs encore plus, avec des problèmes mentaux. Alors qu'en fait, je pense que le métier de psychologue va bien au-delà de ça et que ça peut être aussi présent pour résoudre des petits problèmes, de la même manière qu'un kiné peut résoudre des petites blessures et aussi des très grosses blessures. Et je pense que la psychologie est méconnue en ça, aujourd'hui. Et donc, il faut avoir un abord très prudent avec les patients et aussi une manière d'amener les choses, très prudente vis-à-vis de la psychologie. C'est-à-dire que quand on détecte que des personnes vont pas forcément bien, Il faut l'amener plutôt dans le sens où est-ce que vous pensez que ça pourrait être utile d'aller discuter avec quelqu'un de ces problèmes-là? Parce que moi, aujourd'hui, en prise en charge, je vais pas avoir les outils et je suis pas formé pour vous prendre en charge sur ces aspects-là. Donc voilà, je pense qu'il y a une réelle complémentarité. Après, si je peux nuancer un peu ce propos-là, je pense pas qu'il faille tomber dans l'excès, c'est-à-dire que aujourd'hui on a tendance à déplacer le curseur vers tout ce qui est psychologie, etc. Je pense qu'il faut d'abord qu'on apprenne à détecter ce qui, oui ou non, est du ressort de d'un psychologue, par exemple. Je parle pour les kinés, et puis qu'ensuite on adresse les personnes qui en ont vraiment besoin, parce que ben comme dans tout, on a des gens qui peuvent se plaindre régulièrement et qui vont pas forcément mal, et d'autres qui se plaignent jamais et qui sont vraiment atteints par des problématiques externes. Donc voilà, je pense qu'il y a une réelle complémentarité. Et si je vais sur le sport de haut niveau, il y a le développement en ce moment de tout ce qui est préparation mentale, et je pense que c'est un apport qui est non négligeable pour la performance sportive. Donc voilà, on ouvre un nouveau tiroir dans la performance. Enfin, il existe déjà depuis des années, mais en tout cas, il émerge aux yeux de tout le monde actuellement. Et je pense qu'on ouvre un nouveau tiroir et que vu l'impact que ça a et vu les études qui sont faites dessus, je pense qu'il y a, oui, comme tu dis, une vraie complémentarité là-dedans.
Alors, donc déjà, je te rejoins complètement justement sur l'appréhension très souvent de la psychologie globalement chez le tout venant, qui n'aurait pas de problématique d'ordre plutôt psychiatrique. Et du coup, je me pose une question parce qu'il y a une émergence en ce moment de formation de psychologue du sport. Et du coup, toi, est-ce que quand tu réadresses, est-ce que tu vas plutôt aller vers ce type de psychologue-là? Et est-ce que tu remarques que quand c'est le cas, des sportifs, par exemple, justement de haut niveau, qui d'eux-mêmes, a priori, ne seraient pas allés voilà, voir un psychologue, est-ce que le fait de savoir que c'est un psychologue du sport et que potentiellement on va plus aborder des problématiques telles que justement l'appréhension de la performance, la préparation mentale, est-ce que tu remarques que les sportifs que tu adresses sont moins friands à l'idée d'aller voir des psychologues de ce type?
Alors, pour être totalement transparent avec toi, moi aujourd'hui, j'ai pas eu l'occasion encore de collaborer avec ce qu'on appelle un psychologue du sport. Souvent, j'ai pas de nom précis en fait de psychologue auquel j'adresse mes patients. C'est comme je te disais plutôt une et peut-être que c'est un défaut du coup d'accompagnement, mais c'est plutôt là quelque chose où je suis en discussion avec le patient et je le laisse ensuite faire ses démarches de son côté pour pas non plus avoir trop d'impact sur cette démarche-là, parce que je pense que c'est quelque chose d'important pour le patient de l'avoir. Et puis après, pour ce qui est sport de haut niveau, on avait la chance il y a un an et demi de collaborer avec un entraîneur sur Nantes qui justement se préparait un examen de préparation mentale, qui passait un examen de préparation mentale, et qui donc lui servait de ressource auprès des rugbymen du Stade Nantais. Donc comme on avait ce guide à disposition, je t'avoue qu'on n'a pas forcément fait l'effort d'aller chercher ailleurs. Mais oui, bien sûr que c'est des dimensions à aller investiguer. Après, c'est toujours la complexité de tout mettre en place. Et puis, on revient encore une fois sur cet élément déterminant qu'est le temps. C'est-à-dire que, il faut savoir que des sportifs de ce niveau-là, quand ils sont blessés, on les voit 3 fois par semaine, voire 4, au cabinet. Ils font de l'entraînement contre résistance au club en plus sur par exemple quand c'est les jambes qui sont touchées, ils vont faire du renforcement sur les membres supérieurs. Donc en fait où est-ce qu'on casse ça? Il faut aussi que ce soit intégré, c'est-à-dire que pour convaincre un sportif de haut niveau qui réfléchit énormément sur sa carrière, sur comment prendre en charge une blessure, il faut que ces réflexes-là, ils soient intégrés dans le club déjà, Et donc, ça se met en place petit à petit à Nantes, par exemple, au niveau du rugby, parce que ça se professionnalise et parce que le club prend de l'envergure d'année en année. Mais c'est des choses qui demandent du temps et des choses qui arrivent progressivement, on va dire, dans le sport de très très haut niveau. Donc là, on parle d'athlètes olympiques ou d'athlètes, si on prend l'exemple du rugby de top 14, on commence à arriver dans les clubs à embaucher des préparateurs mentaux, à avoir des psychologues du sport. Donc il faut du temps pour que ça arrive à des niveaux un peu plus bas et que ce soit vraiment répandu comme pratique, je pense. Mais ça n'enlève pas l'utilité.
Ok, super intéressant. Et moi, j'avais une question par rapport à ta pratique de kiné du sport avec tes jours de rugby. Est-ce que, sans parler de blessure, tu observes en tant que kiné peut-être un lien entre l'état d'esprit du joueur, comment il se sent, peut-être qu'il est un peu fatigué, qu'il a un peu moins de morale, et ses performances sur le terrain? Est-ce que, en fait, sans qu'il soit blessé, est-ce que tu lis les deux?
Alors, ça, après, c'est des observations qui sont très ponctuelles parce que on n'assiste pas à tous les entraînements de la semaine. On n'assiste même pas aux entraînements, en fait. J'assistais que au match. Donc, compliqué de te répondre de manière vraiment objective, mais on sait que souvent, à l'inverse, quand les gens se sont blessés, on met en évidence que y avait plusieurs facteurs, c'est-à-dire j'étais un petit peu fatigué, je me sentais un peu en dessous de mon niveau, j'ai peut-être essayé de forcer un petit peu plus sur cette séance-là parce que je voulais être titulaire dimanche. Tu vois, c'est toutes ces dimensions-là en fait qui sont importantes à prendre en considération, pardon. Et je pense que c'est là-dedans où en fait la prévention elle est très compliquée et c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur la diminution de facteurs de risque. C'est parce que en fait en tant que kiné on peut pas maîtriser toutes ces dimensions-là et je pense que même si on crée un réseau, c'est-à-dire ce qu'on essaie de faire actuellement en relation avec le préparateur physique, en relation avec l'entraîneur, en relation avec le médecin du club, l'ostéopathe du club, etc. Même si on crée une boucle autour du joueur de collaboration médicale et sportive, en fait, on n'aura jamais assez d'outils pour vraiment guider au mieux le sportif et lui garantir le 0% de risque de blessure. Ça, c'est vraiment pour nuancer encore une fois mon propos. Et donc, je pense que, enfin, je suis intimement convaincu que oui, quand il y a une blessure, il y a des paramètres environnementaux. Qu'il soit psychologique ou qu'il soit relatif à la fatigue, qu'il soit relatif à la vie de famille, parce qu'il ne faut pas oublier que même si ce sont des sportifs de haut niveau, ils ont aussi une vie à côté du club, une vie à côté de la performance. Et ça, en fait, c'est des choses qu'on a tendance à oublier. Et donc, ben, comme tout le monde, quand ils ont leurs premiers enfants, les nuits sont plus courtes, il y a des réveils nocturnes, ils arrivent un peu moins en forme. Au travail, parce que c'est leur travail. Donc voilà, il y a toutes ces choses-là à prendre en considération. Il y a des périodes où ils sont malades aussi, comme tout le monde. Une grippe, un rhume, voilà, on est un peu moins bien, on dort un peu moins bien, on respire un peu moins bien. Et on se retrouve dans des situations où ben, finalement, on impacte plusieurs dimensions et où potentiellement, c'est une influence sur la blessure au final, oui.
Est-ce que justement, lorsque la blessure arrive, est-ce que c'est pas aussi, tu penses, un moyen du corps de dire, bah là par exemple, stop, on tire trop sur la corde, ou alors bah, c'est le moment de faire des remaniements, par exemple dans son quotidien ou quoi? Est-ce que finalement elle n'a pas aussi une fonction, bah, une fonction, alors peut-être pas po positive, mais en tout cas de prévention? Qui serait plutôt au final sur du très très long terme bénéfique pour justement atteindre un équilibre optimal en tout cas sur une durée plus ou moins courte.
Ah, je trouve que ta question, elle est très intéressante. Je suis pas assez renseigné sur les liens réels qu'il peut y avoir pour pouvoir te répondre de manière sûre, mais je trouve que la réflexion, elle est intéressante dans le sens où forcément, si à un moment donné dans ta vie, que ce soit personnel ou professionnel, tu tires trop sur la corde et que tu continues à réaliser tes activités sportives au niveau auquel tu les réalisais avant que ce soit un petit peu plus compliqué dans ton quotidien, je pense que la blessure, oui, a plus de chances de survenir. Après, est-ce que c'est un signal d'alarme ou est-ce que c'est une conséquence? Ça, je peux pas te dire. J'aurais plutôt tendance à penser que c'est une conséquence qu'un signal d'alarme. Mais je trouve que ta réflexion, elle est très intéressante là-dessus. Et je pense que c'est des points de vue qui se discutent. Y a pas de. Enfin, moi, j'ai pas aujourd'hui de réponse tranchée là-dessus. Ouais. Mais c'est une très très bonne réflexion.
Et est-ce que justement, si tu dis que c'est plutôt, enfin, si tu penses que c'est plutôt une conséquence, est-ce que toi, dans ta pratique de kiné ou même dans ton expérience plus personnelle, est-ce qu'on peut identifier en fait des signaux d'alarme qui viennent en amont de la blessure pour en fait justement la prévenir? Quels sont au niveau, je sais pas, des sensations ou des choses qu'on peut observer, des signaux qui peuvent être identifiables?
Moi, je sais pas. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Si on prend par exemple l'aspect professionnel, mais ça peut aussi être l'aspect personnel, remarque. Je pense que les facteurs de stress, c'est-à-dire un stress important, beaucoup de travail à fournir sur une période courte, c'est un premier indicateur. Parce que ce facteur stress, il peut avoir une influence sur le facteur fatigue et le facteur sommeil. Donc, je pense que c'est un deuxième facteur que je prendrais en compte. C'est est-ce que le sommeil est bon? Est-ce que le niveau de fatigue n'est pas trop important en ce moment? Parce que je pense que c'est quelque chose d'essentiel, le sommeil et donc la gestion de la fatigue. Ça, c'est les deux premières choses. Et puis après, est-ce que, je sais pas, ma relation avec mes chefs d'entreprise ou est-ce que avec mes dirigeants, mes N plus 1, est-ce qu'avec les personnes avec qui je collabore, il n'y a pas des tensions en ce moment, donc c'est-à-dire la relation à l'autre, est-ce que avec ma compagne ou mon compagnon, il y a des problématiques en ce moment? Donc ça, c'est un autre indicateur, je mets pas de nom dessus, mais c'est le relationnel humain. Est-ce qu'il y a des problématiques? Est-ce qu'il y en a plus que d'habitude? Parce que, est-ce que dans un état de stress important avec un sommeil diminué, je suis pas un peu plus irritable et j'ai pas un peu plus d'interaction, on va dire, de mise en tension avec mon environnement pro et perso? Voilà, ça c'est des. Je pense que c'est des indicateurs importants. Et puis après, il y a. Comme je m'y intéresse un petit peu, il y a ces signes de symptômes dépressifs, c'est-à-dire se renfermer sur soi-même, éviter de partager ses émotions, avoir des idées plutôt négatives, avoir une mauvaise estime de soi en permanence, se rabaisser systématiquement, etc. Voilà, ça c'est des choses auxquelles il faut faire attention. Parce que c'est décrit comme étant quelque chose qui peut être assimilé à des symptômes dépressifs. Donc voilà, je pense que c'est important de prendre ça en compte. Et je pense que c'est important aussi de faire de la communication par rapport à ça. Parce que comme tu le vois, là je suis en train de tisser une explication avec ce que je connais, mais j'ai pas d'expertise et j'ai pas réellement travaillé sur le sujet. Mais ce qui montre aussi que on est tous et toutes plus ou moins à distance en fait de cette considération psychologique parce que on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire et je pense par exemple que dans nos générations enfin dans les générations qui arrivent on a tendance à beaucoup plus faire attention à cet aspect-là parce que il y a 30 ou 40 ans je pense notamment à l'époque de mes grands-parents où il fallait pas dire en fait. C'est-à-dire que on montrait pas les émotions, on disait pas quand ça allait mal dans une vie, on s'occupait entre guillemets de ses problématiques de son côté avec sa famille, on essayait de résoudre les problèmes en famille et on évitait d'en débruiter ça parce que quelqu'un qui allait mal ou quelqu'un qui était voilà qui avait des problèmes psychologiques, c'était pas forcément quelque chose de bien vu. Et je pense qu'aujourd'hui, si on regarde la société, il y a cette évolution-là, c'est-à-dire que On sort de générations qui, je pense, ont tout donné pour leur activité professionnelle, ont mis l'activité professionnelle au centre de leur vie, entre guillemets. Alors, il ne faut pas non plus faire une caricature de l'ancienne génération et de la nouvelle génération, hein, c'est pas ce que je veux faire, c'est vraiment, il y a des exemples de ça partout, que ce soit dans la nouvelle ou dans l'ancienne génération, mais c'est un peu l'image que j'en ai. Et donc, en fait, c'était on travaille pour gagner de l'argent, pour être bien dans son métier, et puis on aura la vie de famille ou le train de vie qu'on mérite grâce au travail ensuite. Aujourd'hui, je pense que les nouvelles générations qui arrivent, mais il y a aussi des gens de l'ancienne génération qui réfléchissent comme ça maintenant, je pense que tout le monde est amené à évoluer, se disent, si je peux avoir un petit peu plus de temps pour mes activités personnelles, avoir un petit peu moins de volume, de travail, gagner un salaire qui est peut-être pas mirobolant, mais qui me permet de réaliser, mes activités, et puis d'avoir la vie que j'avais envie d'avoir, eh ben je vais baisser un petit peu le curseur du travail, augmenter un petit peu le curseur personnel, et puis voir un petit peu comment je peux naviguer là-dedans. Alors ça se fait jamais en un claquement de doigts, mais je pense que on a cette évolution-là aujourd'hui, qui est due à plein de choses. Je pense notamment au niveau économique, etc. Mais bon, on rentrerait dans d'autres discussions. Et je pense que c'est vraiment ça qui change. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est cette représentation de la pyramide de Maslow. Je ne sais pas si vous connaissez ça. En fait, c'est une pyramide, pour ceux qui écoutent mon épisode, qui priorise en fait les objectifs en fonction de ce qu'on a envie de faire. C'est-à-dire, c'est une pyramide où à la pointe, je mets qu'est-ce qui est le plus important pour moi en ce moment, aujourd'hui. Et puis ensuite, je mets des niveaux et cette pyramide va me permettre d'être bien dans mes baskets. Ça, je vous fais une petite référence. Et donc, j'essaye de tout mettre en place pour arriver à réaliser les objectifs de cette pyramide. Et en fait, cette pyramide, elle est top parce qu'elle peut être, elle peut bouger dans le temps. C'est-à-dire qu'on peut changer l'objectif principal en fonction de la période dans laquelle on se situe. Et je trouve que c'est vraiment un. Enfin, c'est quelque chose qui est top. J'avais lu un peu ce travail-là et je trouve que c'est vraiment très intéressant à lire et à aller investiguer.
Tu viens de dire quelque chose qui était très intéressant. Tu as dit en fonction de la période dans laquelle on se situe. Donc en fait, est-ce que toi tu considères que le bien-être physique, le bien-être mental, est-ce que c'est quelque chose de mouvant, c'est-à-dire qu'on peut être bien une journée et une autre journée être un peu moins bien, ou est-ce que tu considères ça comme un état plutôt fixe?
C'est la nuance que j'aurais aimé apporter en début d'épisode à ma définition, c'est que pour moi, on peut pas être bien dans ses baskets tout au long d'une année. Je pense que ça n'existe pas. Après, c'est des convictions encore une fois qui sont personnelles. Peut-être qu'il y a des gens qui sont bien dans leur basket 365 jours par an. Je pense qu'il y a des moments où on va très bien, où tout est au top, où tout marche, où on a l'impression de enfin, vraiment de casser la baraque parce que tout nous réussit. Et il y a des moments à l'inverse où on a l'impression que tout va mal. La loi des séries, c'est-à-dire je me réveille un matin, mon pneu est crevé, j'arrive à la fac, j'essaye de me faire un café, je me mets du café sur ma chemise. Enfin voilà, il y a cette loi des séries où on se dit que tout va mal. Et en fait, je pense qu'il faut nuancer dans les deux cas, c'est-à-dire que c'est des perceptions, encore une fois. Et je pense que il faut apprendre à vivre avec des moments de très bien et des moments de creux. Et j'adore ce parallèle avec le trail justement et le trail longue distance. En fait, sur les premières courses de longue distance qu'on fait, les moments où on commence à aller moins bien physiquement, on a justement cet aspect mental où on se dit, mais je vais jamais y arriver. C'est sûr, je vais pas finir, je suis foutu. J'en ai plein la tête, j'en ai plein les chaussettes, je vais jeter l'éponge et je vais m'arrêter. En fait, ça, c'est les premières courses. Et en fait, on se rend compte qu'on a des ressources et qu'on peut mobiliser ces ressources-là. Et je pense que les périodes de moins bien, qu'elles soient dans le trail ou dans la vie, on apprend à les gérer. Et en fait, la deuxième période de moins bien qui sera de la même importance, en fait, on va se dire, c'était pas si terrible. Et c'est ce qui se passe à la fois dans la vie et à la fois dans le trail, si je peux me permettre ce parallèle maladroit, C'est-à-dire que dans la deuxième course, qui est encore plus longue, ben en fait, on sait que quand on va arriver dans ce moment de creux, on sait que ça va arriver, et ben on s'y prépare. Et on se dit, OK, arrivé à tant de kilomètres, je ne vais pas être bien. Donc ben, il faut juste laisser passer la vague. Il faut essayer de faire du mieux qu'on peut pour la gérer. Et puis après, aller un petit peu plus loin. Et c'est la même chose avec le travail. J'aime beaucoup cette phrase que en fait un de mes patrons m'avait dit, qui s'appelle Christophe. C'est en fait il y a un moment où dans la thèse j'étais sous l'eau et c'était au début de la thèse, c'était après un an où j'ai l'impression de en fait de pas m'en sortir, des to-do lists qui sont de plus en plus grandes et on n'avance pas. Et en fait cette phrase avec beaucoup de recul où il me dit justement que c'est à un moment donné où on a l'impression d'avoir tout qui nous tombe dessus, mais une fois qu'on aura passé ça, en fait, on va se rendre compte justement qu'on arrive à gérer cette situation-là. Et donc, il faut réussir à transformer ce qui va être négatif en positif, ce qui n'est pas toujours évident à faire, hein, et ce qui est encore très compliqué aujourd'hui. Mais c'est vrai que cette vision-là où on se dit, ben, quand on est dans le négatif, essayer de trouver juste le petit truc positif qui peut faire qu'en fait on se dit, OK, je suis dans le dur, mais si j'arrive à gérer ça, ça veut dire que j'aurais réussi à le gérer, que j'ai les capacités de le faire. Et donc je pense que ça, c'est hyper important dans la conception des choses. Je sais pas si j'ai
Ok.
totalement répondu à ta question, mais...
C'était très bien. Donc en fait, ce que tu dis, c'est lorsqu'on est dans une situation peut-être inconfortable, où on se sent pas bien, c'est que tu changes ton point de vue sur la situation, ou tu essayes en tout cas de le modérer pour rendre la situation plus confortable, ou pour moins, ou du moins t'aider à passer cette situation désagréable.
Ouais, c'est un petit peu c'est un petit peu ce que je dis, c'est-à-dire essayer d'avoir la vision positive. Et je pense qu'en cela l'entourage que tu as, si je parle de moi, que ce soit au niveau personnel ou que ce soit au niveau professionnel avec mes encadrants scientifiques ou mes encadrants cliniques, c'est de s'entourer avec des gens avec qui tu apprécies collaborer. Alors forcément, il y a des moments un petit peu plus durs, un petit peu plus complexes, mais avec des gens avec qui t'aimes collaborer parce qu'ils te montreront justement toujours un petit peu de positif, tu vois. Et en fait, il y a des moments où ces gens-là s'en rendront pas forcément compte, mais par une remarque où t'amènes un petit peu de positif, tu te dis, ouais, finalement, ok, allez, je me remobilise un peu, je me remets en ordre de bataille. Mais encore une fois, si on nuance tout ça... Et si on ramène la chose à mon quotidien, à moi, j'ai jamais traversé d'épreuves de vie, tu vois, qui soient insurmontables. Je pense qu'il y a des gens aujourd'hui à qui tu pourrais pas dire, ah non, mais essaye de voir un petit peu le positif. Tu vois, c'est quelque chose de très naïf comme remarque de ma part, parce que je fais référence à ce que je connais et à mon quotidien. Je pense à des gens que j'ai pu côtoyer au début de ma carrière de kinésithérapeute qui ont par exemple des accidents graves où tu vas avoir une limitation physique très importante, des AVC où tu vas être privé de la moitié de tes capacités corporelles. Forcément, ces gens-là, si tu leur dis ouais, essaye de voir un petit peu le positif, c'est un petit peu plus compliqué, mais je pense que ça peut quand même se faire. On a des exemples aujourd'hui de personnes ressources qui sont incroyables, qui malgré des épreuves de vie ou des handicaps très importants réalisent des choses exceptionnelles. Donc voilà, je pense que ces gens-là ont réussi à un moment donné à entrevoir du positif dans une période très creuse pour le coup.
Mais là, du coup, ça me fait penser à ce que tu disais au début sur la blessure, d'où l'intérêt de la prévention. Ou par exemple, justement, au moment où on commence une activité sportive qui commence à s'intensifier, en fait, c'est hyper, je trouve, pertinent de savoir avant en fait que la blessure arrive, que ça fait partie du processus. Et là, du coup, enfin, ça me fait penser aussi à toute la question de l'échec ou pas dans sa vie. Mais de toute façon, à chaque fois, et quand on arrive à se relever, on se relève toujours, toujours plus fort. Donc voilà, ça me fait penser à ce que tu disais sur la blessure au début.
Ouais, je pense que C'est une manière de voir les choses. Après, c'est discutable. Je pense qu'il y a d'autres points de vue qui sont différents et je pense que tout point de vue est intéressant. Aujourd'hui, c'est moi ce que je trouve pertinent, c'est d'essayer de trouver toujours du positif, même quand on est un peu sous la flotte. Après, c'est pas toujours évident, hein. Je dis pas que c'est facile, mais c'est des choses qui sont importantes, je pense.
Ok, très bien. Et justement, quand tu dis trouver du positif, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, pour toi, c'est quoi trouver du positif dans une situation? Tu vois, tu as pris l'exemple du début de ta thèse. Et là, justement, quel était le positif qui t'a aidé à surmonter cette épreuve?
Moi, en fait, c'est juste que je pense que j'ai fait exactement ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire plus tu vas t'engager, parce que ce qui était important et ce qui est important pour moi en ce moment, c'est de développer justement cet aspect professionnel. Donc en fait, à un moment, on change les priorités, c'est-à-dire qu'on passe d'une période où je faisais beaucoup de sport et beaucoup d'activités physiques à une période où je vais avoir une charge de travail un peu plus conséquente, qui est pas insurmontable, hein, mais qui est juste une charge de travail plus conséquente avec un changement d'environnement, c'est-à-dire que je sors de ma zone de confort pour faire autre chose. Et puis au bout d'un an, 1 an et demi, comme je te dis, il y a beaucoup de choses à faire et je me demande comment je vais réussir à enchaîner tous ces mois de travail sans à un moment donné me dire mais je vais exploser. Et en fait, tu te rends compte qu'à ce moment-là, tu as laissé partir ce que tu appréciais, c'est-à-dire passer du temps beaucoup avec tes amis, faire du sport, passer du temps avec du coup avec ma compagne, et en fait tu vis que travail. C'est-à-dire que tu te rends compte que ben ouais en fait t'es H24 là-dedans, mais c'est aussi normal parce que dans ce qu'on fait, c'est normal de travailler beaucoup pendant son doctorat et c'est quelque chose qui est voilà, c'est quelque chose qui est admis et tout le monde passe par là et donc c'est une normalité. Mais je pense qu'il y a des gens qui arrivent à garder une rigueur organisationnelle que j'ai pas eu à ce moment-là. Et où justement j'ai laissé partir un peu ce sport, un peu ce côté plutôt entourage. Et en fait, bah c'est des choses toutes simples à mettre en place, mais c'est juste se dire si je vais faire 1 heure de sport aujourd'hui, c'est pas 1 heure de perdu sur mon travail et pas 1 heure qui va me fatiguer plus pour la suite, mais plutôt 1 heure qui va me redonner de l'énergie, qui va me permettre de déconnecter un peu de ce que je peux faire, qui va justement me permettre de me sentir un peu mieux. Pareil sur des week-ends où je pouvais travailler, où je me disais, non, je vais pas faire ça parce qu'en fait, si je vais faire une soirée avec mes amis ou si je vais à un anniversaire ou à un gros événement, comme on va changer un peu de rythme, le lendemain, ça va être compliqué. Je vais perdre une journée de travail et le lundi, ça va encore être compliqué. Donc, je vais perdre 2 journées de travail. Et en fait, parfois, on se rend compte que lâcher un petit peu prise, ça permet justement, bah, en fait, le lundi de pas être si fatigué de ça, mais de retourner avec la banane au travail parce que justement, on a eu une petite coupure et donc on se remet en selle. Après, encore une fois, c'était des épisodes que je qualifie de moins bien dans ma thèse. J'étais pas non plus au fond du trou et je pense pas que ça puisse se comparer à des grosses épreuves de vie, mais c'est voilà, c'est des petits moments où chacun a, et je pense que c'est important aussi à dire, je pense que chacun a le droit à un moment donné de sa vie de pas être bien, peu importe ce qu'il fait, peu importe son niveau de pratique sportive, peu importe son niveau d'engagement dans son travail, voilà, on a le droit, je pense, et je pense que c'est important de le dire, on a le droit à certains moments d'être fatigué, de pas avoir envie, de pas être bien dans ses baskets. Et on a le droit de le dire à d'autres gens pour avoir un petit coup de pouce, un petit coup de main, une oreille attentive, un petit mot qui peut-être signifie pas grand-chose, mais qui en fait va aider la personne qui le dit. Et je pense que ça, c'est des choses qui sont importantes à dire aujourd'hui. Voilà.
Top.
Merci beaucoup pour ce rappel.
Merci beaucoup Antoine, c'est vraiment hyper intéressant. Donc on arrive à la fin de ce premier épisode avec toi. Est-ce que tu pourrais nous partager une ressource qui t'a aidé à te sentir bien dans tes baskets, que ce soit, je sais pas, un film, un livre, une personne qui t'a aidé, enfin voilà. Est-ce que tu as une ressource qui t'a vraiment aidé à être bien dans tes baskets aujourd'hui?
Alors moi j'ai une ressource fantastique qui est tous les jours avec moi, c'est Hélène, c'est la personne qui partage ma vie parce que justement elle a toujours cette vision un peu positive des choses. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais rien de négatif, tout peut se transformer en positif et tu vois cette vision-là elle vient d'elle. Donc ça c'est je pense la ressource la plus importante que j'ai aujourd'hui. Après si on parle de livres ou si on parle de musique. Moi, j'aime beaucoup la musique en général. J'ai pas de style de prédilection. Tout ce qui me semble musical, en tout cas, ou qui semble musical à mon oreille, j'aime bien écouter. En fait, je trouve que c'est important, tu vois, d'avoir des sas de coupure où justement t'écoutes un peu de musique tranquille, tu fais rien d'autre. Tu vois, moi, c'est des choses qui me permettent de me sentir pas mal. Et puis après. En termes de livres, alors j'ai ce défaut-là, je suis pas un très très grand lecteur. Moi j'aime bien les livres, tu vois, justement, qui. Enfin là, j'ai lu le livre de François Daen, par exemple, qui s'appelle La vie courante, où il raconte justement son parcours de vie. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est un ultra-trailer. Je trouve ça exceptionnel parce qu'en fait, c'est une aventure humaine. En fait, sa pratique de son sport, c'est avant tout une aventure humaine, c'est-à-dire que j'arrive à quelque chose avec des amis. Je me rends compte que finalement, je suis pas mauvais. Ça, c'est comme il le décrit. En fait, pas mauvais, ça veut dire que j'ai des qualités exceptionnelles. Et puis, je gagne des courses, mais en fait, je garde toujours mon cercle d'amis, auprès de moi. Et j'avance avec ça, en fait. Et je veux jamais lâcher, ce cercle d'amis-là. Je le garde avec moi. Et j'avance. Et même si moi je deviens pro, et même si moi je deviens connu, et même si moi je deviens célèbre, en fait, je garde ce cercle d'amis avec moi. Et je continue à faire des week-ends où je fais n'importe quoi alors que je suis dans le team Salomon. Tu vois? Ça, c'est un peu ce qu'il raconte. Alors, quand il dit n'importe quoi, c'est pas des soirées à n'en plus finir. Hein, c'est des espèces de défis où ils vont au sommet de montagne hein, en partant un matin à la frontale. Et tu vois, ça je trouve par exemple que c'est des choses qui te font te sentir bien parce que c'est des aventures qui sont appréciables à lire. Je pense qu'ils occultent aussi peut-être les moments où ça va un peu moins bien, à part sur le côté performance, mais c'est des livres qui sont cool. Et puis après, sur le côté un peu plus sport et perf, j'avais beaucoup aimé un livre de Martin Buchet qui s'appelle E-Goals. En fait, c'est un livre qui raconte la gestion de l'ego dans la performance et dans le haut niveau. Donc ça, que ce soit avec des entraîneurs, avec des sportifs, etc. Et qui raconte un peu son parcours et ses rencontres avec certains de ses sportifs, justement. Et en fait, lui, il parle de cette gestion de l'ego. Et en fait, c'est encore des dimensions qui, moi, me sont méconnues parce que je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire. On en a des définitions qui sont approximatives, et en fait, lui, il essaye d'expliquer que dans certaines situations, il faut savoir se mettre un peu en retrait, et que dans d'autres, justement, il faut mettre le volume sur fort parce que c'est des moments où on a besoin de s'exprimer et où on a besoin de marquer un petit peu ses convictions, ses idées. Et ça, c'est des livres qui sont très importants, je pense, dans ce qu'on fait, parce que justement, on côtoie plein de personnes qui sont différentes, plein de personnalités différentes. Et donc, gérer un petit peu ce volume personnel sur on ou sur off par moment ou sur moyen pour d'autres, bah c'est des choses, je pense, qui sont intéressantes à appréhender et qui, moi, m'avaient pas mal parlé. Donc j'ai trouvé ça assez cool comme bouquin. Donc, voilà un petit peu.
C'est super intéressant, merci beaucoup. Est-ce que justement tu aurais des conseils pour ceux qui écouteront cet épisode pour qu'ils soient bien dans leur basket?
Bon, allez, les conseils que j'ai, c'est ceux que j'ai un peu évoqués. C'est-à-dire, je pense que quand on est dans une période de creux, il faut essayer de tirer le positif s'il y en a. S'il n'y en a pas, et qu'on n'arrive pas à voir, ces petits points positifs, je pense qu'il faut parler avec des gens. Et peu importe quelle est la personne à ce moment-là avec qui on échange, il faut juste échanger. Parce qu'il y a des gens qui vont, à un moment donné, se prêter plus à la discussion que d'autres. Ça peut parfois être la famille, ça peut parfois être des amis, ça peut parfois être des collègues de travail. Je pense qu'il y a des oreilles attentives partout. Je pense qu'il y a des belles personnes et des belles rencontres partout. Moi, j'aime bien, de manière générale, les relations humaines, donc j'essaye de toujours faire en sorte qu'il n'y ait pas de problématiques, justement. Et donc, je pense que vraiment, essayer de discuter, de trouver une oreille attentive, c'est quelque chose d'important. Et puis après, je pense que de s'organiser, d'essayer d'organiser un peu sa vie, d'avoir un peu de rigueur et pas juste des élans de motivation, c'est-à-dire avoir un rythme qui soit régulier et pas juste à certains moments faire beaucoup de choses, et puis après être dans une période de creux et puis recommencer à faire énormément de choses, mais plutôt avoir quelque chose de continu, de manière régulière. Je pense que ça, c'est des choses qui sont importantes à mettre en place pour se sentir bien dans ses baskets, mais encore une fois, c'est ma définition et c'est ma vision des choses, et je pense que chaque personne a la capacité de mettre les curseurs là où il veut pour justement améliorer son quotidien.
Très bien, merci, merci beaucoup, c'est top. Et du coup, pour finir, est-ce que tu dirais que toi, aujourd'hui, tu es bien dans tes baskets, dans ta vie?
Ouais, moi je pense que je suis bien. Avec, comme je vous le disais, des périodes de très bien, des périodes de moins bien. Mais je pense que je suis très bien parce que je réussis à faire ce que j'ai envie de faire. Je m'éclate vraiment dans ce que je fais. C'est-à-dire, j'apprécie ce que je fais dans mon travail. J'apprécie ce que je fais de ma vie perso. Et j'ai l'impression de réussir à combiner de la bonne manière un peu ces choses-là. Alors, ça dépend encore une fois des périodes, mais j'ai l'impression de réussir à combiner ça. Et du coup, ouais, je suis content et je dirais que je suis bien dans mes baskets aujourd'hui. Ouais.
Merci beaucoup Antoine. Franchement, c'était top, c'était très intéressant de t'avoir. On est très heureux que ce soit toi le premier invité de ce podcast. Et puis voilà, je te souhaite une excellente journée et merci encore.
Merci à vous, c'était top.